Chronique du dessin, roman graphique. Bonjour à toutes et à tous. Représenter la littérature cette semaine avec aujourd'hui Le voleur de feu, la vie d'Arthur Rimbaud, tome 2 de Damien Cuvillier. Le projet est vraiment de montrer comment va naître le poète et qu'est-ce qui fait que Arthur Rimbaud se jette dans l'écriture avec cette telle intensité. Il y a bien sûr l'opposition violente avec sa mère qui apparaît déjà dans le tome 1 mais qui ici va prendre une intensité beaucoup plus appuyée. Et puis il y a le départ de Frédéric, son frère qui souhaite rejoindre l'armée. Lui-même va quitter les Ardennes. Il y a cette façon de voir naître le poète et comment il était considéré à cette époque-là. À Paris, il va rencontrer d'autres poètes et témoin cette discussion, page 48. En aucun cas, la poésie se doit d'être une ressource financière. Sa destinée n'est pas la publication, encore moins la richesse matérielle de son auteur. Elle est beauté pure. Je n'ai pas les moyens de me publier moi-même. Mais ce n'est pas une question d'argent. Un peu quand même. Non, il faut imposer la poésie à une société qui promeut la médiocrité et érige la haine comme valeur de vie. J'ai envoyé mes poèmes à l'éditeur Le Maire, dit Rimbaud. Le Maire est un crétin. Il est l'éditeur des poètes parnassiens, des crétins aussi. Quand on est poète, on a pour seule compagne muse et liberté. Dans ce tome 2, c'est également cette relation avec Georges Isambard qui va recueillir, soutenir, stimuler Rimbaud pour qu'il s'engage dans l'écriture, avec aussi une liberté de ton qui est importante et qui va aussi influencer Rimbaud. Les premiers émois sentimentaux et sensuels sont présents dans ce tome 2. Il y a dans la relation avec Georges Isambard un échange épistolaire important à Paris. C'est lui qui va le recueillir et on a par exemple cet échange, page 69, où Isambard s'inquiète de ne pas voir Rimbaud à son domicile comme il devait le faire puisque c'était lui qui l'avait recueilli. « Vous disparaissez toute la journée sans nous avertir. Je vous retrouve au hasard d'un troquet, crotté et passablement enivré. Vous comprendrez que je m'inquiète. Que faites-vous durant tout ce temps ?»« Je deviens poète. Je veux m'enraciner, sentir les éléments, palper les choses et les êtres. Je veux être en prise avec le réel, écrire concrètement. Pas juste des jolis mots rimés. » La transcription la plus exacte possible de des vibrations du monde. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Non, je ne comprends pas. À plusieurs reprises, Damien Cuvillier va citer le poète et ça va nous permettre ainsi de sentir, d'entendre, tout en lisant ce roman graphique, d'entendre l'écriture d'un Rimbaud. Suite à une nouvelle altercation avec sa mère, il se dit « Il faudra me déchirer, moi aussi. » Citation de la poésie de Rimbaud. « J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Crainte et souffrance aux cieux sont partis, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ainsi la prairie, à l'oubli livrée, grandit et fleurit, dansant et divrée, au bourdon farouche, de sang sale mouche. » Et puis il y a le dessin, la mise en couleur, la mise en scène de Damien Cuvillier. Il y a une telle complicité entre Cuvillier et Rimbaud que ça se sent dans chacune des doubles pages. À chaque fois, on a vraiment une façon de nous immerger au plus près de Rimbaud et de sa vie. Tout d'abord, par le dessin. Damien Cuvillier cherche véritablement une exactitude, une justesse, que l'on soit dans le lieu, dans les décors, le choix de la perspective, lorsqu'on est en extérieur, en pleine nature, qu'on sente véritablement toute la végétation qui imprègne l'image, l'atmosphère. Il y a ces intérieurs comme ceux de chez Georges Isambard, où là aussi il y a cette précision du décor qui fait qu'on semble être véritablement dans l'intérieur de l'ancien professeur d'Arthur Rimbaud. Et les scènes sur la Commune de Paris, puisque le récit va jusque à la fin de cette année 1871 où les combats vont être très violents à Paris. Et là aussi, on est dans les décors de la ville. Nous sommes vraiment dans ce... ces combats, cette dureté, cette violence, cet instinct de survie. C'est une immersion progressive, mais très vite, qui nous entoure totalement dans ce qu'est la poésie de Rimbaud et dans la vie d'Arthur Rimbaud elle-même. Un deuxième tome qui... sera suivi par trois autres pour que cette vie d'Arthur Rimbaud soit complète. Il y a dans la façon de découper cette vie d'Arthur Rimbaud, ce choix des années 70 et 71 qui fonctionne parfaitement et qui fait que ces deux années de la vie de Rimbaud qui vont le marquer définitivement, il se termine notamment par cette rencontre avec Verlaine. Voleur de feu, la vie d'Arthur Rimbaud, tome 2. Damien Cuvillier est auteur, dessinateur, coloriste et lettreur. C'est publié par les éditions Futuropolis. Les 112 pages de ce livre sont au prix de 22 euros. Le livre a été imprimé en Belgique. Et nous finissons en musique avec Léo Ferré qui chante le texte de Rimbaud, le poète de 7 ans.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sur le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Le jour, issuait d'obéissance très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs, aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux voyait des poings. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe. On le voyait là-haut, qui râlait sur la rampe, sous un golfe de jour, pendant du toit l'été, surtout vaincu stupide. Il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Quand lavé des odeurs du jour, le jardinier derrière la maison, un hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne, et pour des visions, éclairant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, rondus, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire, et tout vieillot conversait avec la douceur des idiots. Et s'il ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon, elle avait le bleu regard. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert où lui, la liberté ravie, forêts, soleils, rives, savanes. Il s'aidait de journaux illustrés ou rouges. Il regardait les Espagnols rire et les Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos, à secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtri des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre où, pommadé sur un guidon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou, des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve, noir en blouse, y voyaient rentrer dans le faubourg où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrues.